Les attaques meurtrières et tragiques que la France a connues sur son sol durant l'année 2015 ont suscité une vive émotion. À plusieurs reprises, face à l'absurde, beaucoup sont descendus dans la rue pour exprimer leur désarroi. Dans le même temps, le monde politique s'est saisi de la question par une série de déclarations et d'initiatives, allant de l'héroïsme suranné au franchement inquiétant, en passant par le patriot kitsch, affirmation de l'Union nationale, cyberdrapeau téléchargeable, fermeture des frontières, camp d'internement pour fichier S, déclaration de guerre, déchéance de nationalité. Mais surtout, les événements de janvier ont conduit à entériner la loi élargissant les pouvoirs des services de renseignement en juillet 2015. Ceux du 13 novembre ont abouti à la proclamation de l'état d'urgence et à sa prochaine intégration dans la Constitution. La profusion d'interprétations, d'avis d'experts et d'opinions forme un niveau de compréhension largement médiatisé sur lequel nous ne reviendrons pas. Ces mesures nous semblent plutôt être les symptômes d'une transformation générale du modèle étatique. De plus en plus familières, par leur caractère durable ou récurrent, elles sont devenues une des pratiques essentielles des États contemporains, démocratie comprise. Elles incarnent un mode de gouvernement, l'état de sécurité. Il s'agit bien plus d'une gouvernance que d'un gouvernement, puisque tout clivage politique s'efface devant une unique fin, la gestion des crises. Attentats, catastrophes naturelles, krachs boursiers, accidents, épidémies, désastres écologiques. L'état de sécurité vit par les exceptions qu'il désigne. À se répéter, l'exception devient la règle. L'état d'urgence incarne ce changement de priorité. L'impératif de sécurité, à lui seul, justifie la négation d'autres principes de gouvernement rendus incompatibles, tels que les idées de démocratie ou de séparation des pouvoirs. Une des caractéristiques des lois sécuritaires de 2015, c'est le court-circuitage du pouvoir judiciaire au profit de la toute-puissance exécutive. La loi sur le renseignement place les mises sur écoute directement sous le contrôle du Premier ministre, alors que l'état d'urgence permet les perquisitions administratives décidées non plus par le juge, mais par le préfet lui-même. Celles-ci peuvent être menées contre toute personne à l'égard de laquelle il existe de sérieuses raisons de penser que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et la sécurité. Formulation qui n'a plus aucun sens juridique et qui repose entièrement sur le jugement de l'administrateur. Parmi les exceptions qui viennent justifier l'urgence, il y a cette guerre dont parle François Hollande. Elle nous rappelle ce qu'il y a de construction dans la définition d'une crise. On pourrait dire deux choses, que l'Occident n'a pas connu la guerre depuis 30 ans, ou bien qu'il a toujours été en guerre. Et cela revient au même. La guerre, telle que l'a connue le XXe siècle, opposant un État-nation à un autre, commençant par une déclaration de guerre et se soldant par un traité de paix bilatéral, n'existe plus. Ce qui l'a remplacé, c'est une série interminable d'interventions, toujours asymétriques, d'États ou de coalitions d'États, contre ce qu'ils qualifient eux-mêmes de criminels ou terroristes. L'ennemi n'est plus circonscrit à un appareil d'État, à des institutions, mais défini comme un camp. Dès lors, ces guerres n'ont plus de limites. Plus de limites temporelles d'abord, puisqu'elles se présentent comme des opérations de maintien de l'ordre. Chaque intervention préparant la suivante. Quand pourra-t-on prétendre qu'un ennemi comme Daesh aura été vaincu? Mais surtout, elles n'ont plus de limites spatiales. Alors que la France intervenait depuis le ciel dans un conflit à des milliers de kilomètres de son sol, c'est par certains de ses propres ressortissants que celui-ci fait irruption dans sa capitale. Face à ce nouveau paradigme, l'état de sécurité a une réponse, la militarisation du quotidien. L'ennemi est partout. Cela justifie un quadrillage méthodique de l'espace, l'omniprésence de l'armée dans les lieux publics, les fouilles à l'entrée des administrations, des écoles, etc. Dans ce champ médiatico-politique, cela s'incarne par la construction d'une figure, celle de l'ennemi intérieur. Concentration des peurs, aux contours vagues, elle change de visage au gré des crises. Cette année, naturellement, elle porte la barbe, peut-être même fait-elle la prière plusieurs fois par jour, et ne se sent-elle pas tout à fait Charlie. Quelque chose en elle d'irréductible fait qu'on ne la lavera jamais de tout soupçon. Elle aura beau se justifier, il restera une part d'ombre, quelque chose qu'il faudra toujours vérifier. Si seules 4 perquisitions sur plus de 3000 ont permis des inculpations pour terrorisme, ce n'est pas un problème, car ces gens ne pouvaient pas être blancs comme neige. Les perquisitions administratives permettent de faire une pierre deux coups puisqu'il y a porosité entre les milieux du grand banditisme, du trafic de stupéfiants et du terrorisme, disait Bruno Béchiza, maire de Lesnay-sous-Bois. Et il y a porosité, le parti des méchants. S'il n'y a pas de lien physique, il y aura toujours cette alliance d'intérêts. Dans le fond, ce que produit l'état d'urgence, c'est une polarisation. D'un côté, il y a le camp de l'ordre et de la sécurité, et de l'autre, en négatif, tous ceux qui n'en sont pas, tous ceux qui le combattent, le gênent ou le ralentissent. Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Toute conflictualité est traitée à partir de cette disjonction. C'est ainsi que plusieurs militants politiques rennais ont été réveillés à leur domicile par des escouades d'intervention de la police au matin du 25 novembre dernier. On les assigne à résidence pendant 2 semaines, car on estime qu'ils représenteraient un danger pour l'ordre public. En se rendant en manifestation contre la COP à un moment où les efforts doivent être tous orientés contre l'ennemi commun. L'Union nationale s'obtiendra de gré ou de force, et toute contestation est une futilité en face du péril. Sous l'état de sécurité, il n'y a plus de politique. Il n'y a que des risques. La criminalisation des formes de politique qu'on pourrait qualifier d'extra-parlementaire ou de transversale nous semble particulièrement inquiétante dans un pays où presque plus personne ne croit encore à la politique dite classique. Depuis au moins 15 ans, les sondages électoraux s'enchaînent en déroulant le même scénario. Des taux d'abstention records conjurés in extremis en agitant l'épouvantail du Front National au deuxième tour. Personne n'est vraiment déçu puisque l'on n'attend rien. Seul troué dans cette rengaine mécanique, ce que l'on a appelé les mouvements sociaux, qui semblaient être les derniers sanctuaires préservés du cynisme et de la désillusion. Il n'y a qu'à voir la terminologie qui a récemment servi à désigner les grévistes d'Air France et les opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, voyous, criminels, terroristes, ou les 9 mois fermes prononcés contre les syndicats de Goodyear pour comprendre quelle place est laissée à ces processus au sein d'un projet sécuritaire. Si l'état de sécurité peut se permettre d'abolir la politique, c'est qu'il apparaît dans un monde qui prétend avoir aboli l'histoire. Nous vivons dans une interminable pause. Nous vivons dans le moins pire des mondes, celui où l'économie se charge de configurer les rapports humains. La seule perspective de progrès consiste à transformer toujours plus d'aspects de la vie en marchandises. C'est le statu quo que défendent tous ensemble nos rafales, les patrouilles de police partout dans la rue et les caméras de sécurité des places publiques, pour ne citer qu'eux. À certains degrés, c'est effectivement d'une guerre de valeurs dont il s'agit, seulement c'est qu'ici qu'opère l'arnaque. On voudrait nous faire croire qu'il n'y a de place dans cette guerre que pour l'islam radical ou le parti de l'ordre. La rhétorique de Daesh et celle de l'État se rejoignent au moins sur ce point. Nous croyons à une troisième voie. En fait, nous croyons à une multitude de voies. Certaines d'entre elles passent par la défense d'espaces politiques ouverts à l'expérimentation, comme la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Certaines par la multiplication des pratiques collectives, à l'attachement à la gratuité. Certaines consistent à désactiver partout où c'est possible les catégories qui nous séparent, étudiants, ouvriers, chômeurs, étrangers. D'autres à s'organiser pour vivre comme on l'entend et à se battre pour ce à quoi on croit. D'autres, enfin, tiennent simplement à s'accrocher dur comme fer aux quelques morceaux de vie qui débordent encore l'économie et qu'aucun État ne pourra jamais prétendre sécuriser. Les amitiés, les pratiques poétiques de l'espace urbain, du quotidien, la musicalité des instants et à les faire grandir jusqu'à l'irréconciliable. Nous tenions simplement à rappeler ceci. Personne n'est obligé de subir la dialectique infernale qu'on nous impose aujourd'hui. L'aliénation ou la terreur. Deux idées de la mort. Il est toujours possible de faire un pas de côté, de s'organiser ici ou là pour élaborer un monde, des mondes qui nous soient habitables. Certains le font déjà. Nous ne vous donnerons pas leur adresse, et nous n'avons pas la prétention de tous les connaître, mais cela importe peu, car il suffit le plus souvent de tenir à quelques exigences, avec un tout petit peu de détermination, pour se rendre compte qu'on en fait déjà partie.